Manon et Dan Pou.
Bonjour tout le monde, ça la gang.
Salut.
Allô.
Bon, Marc, ça s'est pas amélioré ton histoire?
Non, j'en mets un peu plus.
OK, t'en mets plus
non,
que...
C'est quand même mieux, Dan, c'est quand même mieux.
Ouais?
Oui. Puis... À 5 heures, ça va être un désastre, mais... Là, j'ai pas parlé depuis 8 heures ce matin.
C'est mieux, selon toi, mentalement ou physiquement?
Non, c'est mieux. Ça sonne mieux.
Okay. C'est audible, c'est oui. un peu mieux. Ouais. Oui, j'avoue.
Okay. Mais ça va pas s'améliorer. J'ai mieux avertir tout le monde.
Non.
J'ai tout
c'est
fait,
sûr
sérieux.
Qu'à 17, 18 heures.
Les suppositoires, tout.
Ah oui, les
textes. Ça veut pas lâcher.
Puis ça a bien été, installer tes suppositoires. Comment tu fais ça?
Comment, tu veux, j'ai aucun problème à tout t'expliquer, moi.
Vas-y donc.
Ben, avec ton. T'as comme un petit suppositoire dans un.
Un truc de plastique blanc, là.
Tu l'enlèves.
Une petite fusée.
Et tu l'insères dans ton anus qui amène au rectum. C'est les vrais mots.
Là, faut que tu t'écartes ou faut que tu te penches pour être sûr que ça. Non, pas du tout.
Parce que c'est juste un trou, c'est ça qui est intéressant.
T'as jamais.
Oui, mais. Je me demandais juste quelle technique il employait.
Et à un moment donné, tu sens que, wouh, ça monte vers en haut.
Le système. C'est une fusée, comme dit Julie. Le moment donné, ça. La rampe de lancement se tasse, puis la fusée part.
Ouais.
Ah, c'est bon. Puis c'est ça, mais tu sais que ça va rapidement dans le sang. Hein?
C'est
semble-t-il que c'est très, très, très rapide.
Pour te dire que c'est efficace, je vais te dire qu'à date,
ça, ouais, j'ai des petits bémols. Mais ouais. Ça a peut-être rapport avec le suppositoire et non pas avec la technique
ben,
et l'endroit où
c'est. C'est néolaryngobis qui, semble-t-il, c'est la référence. C'est ça que même la pharmacienne, j'ai pas inventé ça.
T'as pas utilisé les petites recettes que tous nos auditeurs t'ont envoyées hier?
Non.
Avec du miel, du thé vert, de la moutarde forte, des. C'était quoi, du Vix? Écoute, on en a eu là, des recettes.
J'ai pas mal à la gorge. J'ai juste la voix enraillée.
Enraillée.
Ben voilà.
Bon, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui?
Du vélo.
T'as fait du vélo?
Ouais.
Ta saison vélo est bien entamée.
Bien
là.
Entamée, le long du fleuve. Pas une grande balade, mais vraiment.
T'es allé où? Sa promenade Champlain ou?
C'est ça. Super. Vraiment génial. J'ai adoré ça.
Y a-tu bien du monde?
Non, j'étais tout seul.
Hein?
Ben, mettons 4-5 personnes.
C'était une des belles journées depuis le début de l'année, puis il n'y a pas tant de monde.
Mais il y a beaucoup de monde le soir.
Ah, c'est le soir. Ben oui, on travaille
après,
le jour.
Après 5 heures, ben c'est ça. Après 5 heures.
C'est venteux.
Oui, aujourd'hui, c'était énormément venteux.
C'est forçant un peu plus.
Ben, à l'aller, puis quand je suis revenu, c'était une vraie
vente. Ben oui, il y avait le vent dans le dos, ça allait tout seul.
Parce qu'il était vraiment, le vent était le long du fleuve, là, tu sais.
Okay. Ouais.
Fait que la saison, puis quand t'en fais dans les rues de Québec, est-ce que, parce que t'as la chance d'avoir vécu à Montréal un bout de temps, est-ce que tu dirais que les automobilistes de Québec sont plus courtois ou moins courtois que ceux de Montréal?
Je vois pas la différence.
Ah non, tu vois pas de différence?
Je pense qu'on voit la différence quand on s'y attarde.
OK, fait qu'il y a pas vraiment de différence.
Non.
Puis les pistes cyclables? Tu te promènes sur les pistes cyclables ou tu te promènes dans les rues?
Partout. Je suis pas la piste cyclable.
Tu suis pas la piste cyclable?
Non.
Comme la majorité des vélos.
Mais je respecte le sens puis la signalisation le plus que je peux. Là. Des fois, je suis dans un one-way pendant un coin de rue, mettons, mais sinon, je circule comme du monde.
Tu n'es pas
un
kamikaze. Là.
Non.
Puis tu n'as pas d'automobiliste qui t'en va promener de temps en temps, des petits mots doux, des petits doigts d'honneur.
Ben, parce que je vois pas pourquoi, je dérange pas, je m'en vais pas dans voie pleine, je ralentis personne. Tu comprends, je suis à côté de... Non, je vois pas le problème.
Parce que moi, c'est le seul problème que j'ai avec l'été, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de vélos. Puis moi, faut que quand je conduis, j'ai l'impression qu'il faut être beaucoup plus attentif. T'sais, tout le monde pense que c'est l'hiver qu'il faut faire attention à notre conduite. Moi, je suis rendu que je pense qu'au Québec, maintenant, c'est l'été. Parce que les vélos, souvent, sont dans nos angles morts, on les voit pas. C'est beaucoup plus difficile de conduire.
C'est un bon point. Moi, je pense beaucoup pour les autres.
L'hiver, il y en a moins, là.
Ouais.
L'été, c'est un petit peu plus compliqué. Là. Ouais. Les vélos, quand tu tournes, faut que tu y penses à deux fois.
Les virages à droite.
Tout le temps. Ouais. Parce que puis des fois, ils ne respectent pas la signalisation aussi quand ils s'en viennent dans les sens contraires. Là, moi, dans les petites rues, dans mon calme,
non,
là,
moi,
il y en a beaucoup
attention.
Qui roulent. Là, puis les stops, ils ont l'air à penser que c'est rien que les autos.
Ouais,
là.
Mais non, effectivement.
Et fait que j'arrête même, tu sais, puis j'attends. Puis quand j'en vois un s'en venir, je prends pour acquis qu'il ne va pas faire son stop.
Ouais.
Parce que tu ne veux pas prendre de chance puis en écraser un. Là.
Quand je longe une série d'autos qui sont stationnées dans la voiture, je prends jamais comme acquis...
Ils sont stationnés sur la route?
Sur la route, oui, excuse-moi. Je prends jamais comme acquis que parce que je vois pas quelqu'un qui est assis dans l'auto, personne va sortir. C'est que tu me verras jamais aller super vite le long de plein d'autos stationnées.
S'il y a un enfant en arrière qui ouvre la porte, tu ne seras pas surpris.
Non.
Mais les vélos, là, c'est piste cyclable, ça va bien, mais quand ils arrivent sur les rues, là...
Qu'est-ce qu'ils vont aller faire, là?
Ils pourraient peut-être faire leur stop en même temps que tout le monde.
Ben, c'est ça, je suis d'accord.
S'ils se prennent comme des autos, là.
C'est ça.
Ben moi, j'ai failli me faire frapper par un vélo cet hiver, là où tu t'attends pas nécessairement.
Comme piéton?
Oui, ici en avant. J'ai eu vraiment peur. Là. On s'est vraiment frôlé. Puis lui, il a pas arrêté. Les voitures étaient toutes arrêtées. Puis c'est sûr que tu t'attends pas nécessairement à avoir surgir un vélo comme ça
ben
là, l'hiver.
Non, non, non. Il faut conduire comme du monde.
Ben, c'est ça.
Comme cycliste.
Oui.
Absolument.
On a un auditeur qui dit, je vous le confirme, pour être sur la route toute la journée, donc on peut penser que c'est quelqu'un qui est en vente ou qui est dans un camionneur ou quelque chose comme ça, il dit, c'est rendu beaucoup plus difficile. Il faut être beaucoup plus vigilant l'été. C'est, alors qu'on a toujours pensé le contraire. T'sais, c'était l'hiver qu'on avait des problèmes sur la route. Maintenant, en ville, c'est juste sur l'autoroute, c'est pas pareil, là, parce que c'est rare qu'on croise des vélos sur l'autoroute. Mais en ville, c'est clair que l'été, c'est devenu un casse-tête pour plusieurs d'entre nous. Mais la belle saison commence, et ça vient avec l'été. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On ne pourra pas empêcher les vélos de promener ses routes d'un matin. Et il va falloir qu'on cohabite. Puis... Les piétons aussi, là, les piétons, c'est sûr que les piétons ont mal à partir avec les cyclistes. On pense souvent aux automobilistes, mais les piétons aussi. Là. Moi, quand je vois un cycliste sur le trottoir, je lui dis, je suis rendu à un point où je tolère plus ça.
Ouais.
Quand il y a un cycliste qui me passe à côté, là, qui me frôle sur le trottoir, je lui dis, hey, les cyclistes, c'est dans la rue.
Est-ce que c'est pour ça que les trottinettes, en tout cas, en partie pour ça que les trottinettes sont devenues si populaires en France? Parce qu'on a l'impression que ça peut aller sur le trottoir, ça prend peut-être moins d'espace.
Ça prend moins d'espace, c'est ça. Clair.
Plus facile à transporter.
Ouais,
ouais. Peut-être, les trottinettes, parlons-en des trottinettes, parce qu'il y avait une nouvelle le matin. Hein, Québec se demande encore quoi faire avec les trottinettes.
Oui, parce que
parce qu'en France, il y a quelqu'un qui est mort. Là,
ben oui, mort.
Parce que les trottinettes aussi, c'est dangereux. On parle des vélos, là, mais les trottinettes, c'est pas mieux. Là. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on va laisser ça rentrer dans les rues, dans ces trottoirs? Là, les trottinettes, pour moi, c'est comme un vélo. Je vois pas vraiment la différence. Au niveau réglementaire, je pense que ça devrait être comme un vélo. Mais donc, moi, je les laisserais pas se promener ces trottoirs.
Pas se poser.
Je les obligerais à se promener dans la rue.
Ben oui.
Puis, est-ce que les gens seraient obligés de porter un casque? Ça, c'est l'autre question.
Ben là, les vélos, les cyclistes sont pas obligés non plus.
Non, mais est-ce que ça va à quelle vitesse, une trottinette?
Ben, ça peut aller vite.
Ben, c'est ça, ça va très vite,
ben, ça dépend des coups de pied que tu donnes, non? Eux autres, c'est des trottinettes qui roulent tout seul.
Électriques.
Non,
électriques. C'est ça, là. C'est quasiment... c'est un bolide, là. Je sais pas. Il va falloir qu'on pense à ça, là, parce que c'est de plus en plus populaire, puis il risque d'y avoir de plus en plus de monde, puis de ne plus en plus ces routes, oui?
Ben, il y a quelqu'un qui nous dit, c'est bon pour les trottinettes, c'est bon pour les planches à roulettes aussi. Moi, j'ai remarqué...
Ah oui, des planches à roulettes.
Il y en a, ils vont vite avec ça.
Tu sais, les planches à roulettes, on parle des skateboards,
un
là?
Skateboard, oui. Là, des longboards, là, surtout qu'ils utilisent là, quand ils font de longues distances. Puis des fois, je me dis, aïe, aïe, s'il tombe, là, moi, je suis faite, puis lui, il est fait. Mm-hmm. Là, ils vont vite, puis il me semble que tu n'as pas le contrôle quand tu es dans une côte ou tu fais un virage. Je suis toujours assez impressionnée de les voir aller, puis je suis toujours un peu inquiète. Moi, mon fils en fait pas.
À un moment donné, j'étais en patin à roue alignée. Puis, il y a une fille bien relaxe.
Dans la rue?
Non, sur une piste cyclable.
Oh, fio.
Puis, il y a une fille qui traverse la piste, justement, avec son pouce-pouce.
Avec son bébé.
Puis là, je crie, tu sais, parce que tu peux pas arrêter en roller.
Ben non, c'est pas évident, freiner.
Puis là, elle me regarde, tu sais, comme bien offusquée, parce
arrête,
que c'est ce jour-là.
Ouais,
c'est ça. Mais là, je me dis à moi-même, puis je vais pas arrêter après, mais je me suis dit, je peux pas arrêter. C'est une piste cyclable, j'ai entièrement le droit d'être là. Toi, tu traverses ça comme si c'était une traverse de piéton, parce que tout est correct. Faut que tu regardes. Quand t'es un piéton et tu traverses une piste cyclable, faut que tu regardes parce que les gens vont te rentrer dedans, ils pourront pas t'éviter.
Puis il y a des pistes qui sont.
Tout le monde doit faire attention, c'est ça?
Ce sont des parcs linéaires. Donc, c'est un trajet que tu partages avec des gens qui sont en rollerblade, avec justement des gens qui sont à pied, les poussettes, des petits. Tu sais, quand tu es dans une piste cyclable puis tu as un petit de 4 ans, 5 ans en avant qui, lui, se promène, mais tu sais, qui zigzague un peu en même temps. Puis là, ben, tu en as qui sont là pour faire de la vitesse.
De course, ouais.
Mais ça, les parcs linéaires, c'est comme pas nécessairement juste une piste cyclable. Fait que la cohabitation est difficile aussi dans ce temps-là.
Oui.
Puis souvent, c'est à l'approche des parcs. Fait que là, la madame, elle est avec sa poussette, puis elle a l'impression que ça va pas vite, puis qu'elle peut traverser sans nécessairement faire trop attention. C'est difficile, je trouve, dans ces cas-là de cohabiter.
On a plusieurs textos qui rentrent au 25226 sur les trottinettes. Il y a quelqu'un qui dit qu'il ne loue une en Grèce, ça allait à peu près à 20 km/h. Il y en a un autre qui dit qu'il ne loue une à Paris. Il dit, ça a été pratique, très bien fait, mais ça roule à 30-35 km/h. Et 30-35 km/h, tu rentres dans quelque chose qui vient à la même vitesse de l'autre bord, là, c'est très dangereux. Pas pour rien que quelqu'un s'est tué. Là.
Oui, c'est une dame qui est une vieille madame qui s'est fait rentrer dedans, puis elle est tombée, puis elle en est morte. Ouais.
Mais c'est ça, les trottinettes, ça peut aller plus très vite, puis étant donné que c'est pas tes jambes qui te font nécessairement tout le temps avancer, si c'est une voie, si tu veux pas, c'est un. Comment je dirais ça? C'est pas un char, mais quasiment. Là, c'est quelque chose d'électrique.
Ben oui.
Là,
ça joue sur l'équilibre.
Il y a une propulsion.
Aussi,
là.
Tu peux pas débarquer de ça comme tu veux.
Puis comme tu dis, t'as pas l'équilibre. Mm. Fait que quand tu t'en viens, tu peux pas arrêter comme tu veux.
Non.
Tu peux pas tourner comme tu veux.
Non.
Donc, il va falloir qu'on se méfie puis qu'on commence à encadrer ça. Autre sujet dans l'actualité, en fait, c'est la grosse une du journal aujourd'hui. Jean Pagé vit ses derniers mois. J'ai eu une belle vie, dit-il, raconte-t-il dans une entrevue exclusive à Régent Tremblay. Jean Pagé, que vous avez connu comme... Comment on pourrait le dire? C'est plus qu'un journaliste sportif, Jean Pagé. Il a tout fait. Il a animé des spectacles, il a animé des émissions de radio, il a animé des galas. Je veux dire, c'est une personnalité publique.
Oui.
Il est plus...
Un animateur de hockey à la base,
oui,
je pense.
C'est ça. Mais c'est plus qu'un journaliste sportif. Là.
Ben, tous les Jeux olympiques.
Aussi, on le voyait tout le temps.
T'es allé 12 fois.
12 fois aux Jeux olympiques.
Non, mais je rêve-tu, Eric, où il faisait 110%?
Oui, exact. Oui, c'est lui qui
animait. Parce que moi, j'ai participé à ça plusieurs fois. Il me semble que c'était lui qui animait.
On dit que ça a été une de ses grosses, sinon sa grosse affaire. Puis les Jeux olympiques, évidemment, il était tout le temps là. Il a aussi, moi, j'ai travaillé avec lui. Il a animé des émissions dans notre station sœur au 98.5 à Montréal pendant l'été. Il remplaçait certains de nos collègues. On l'a vu aussi. Moi, j'ai côtoyé, je travaillais avec lui à l'époque à VTL pendant justement les Jeux olympiques. Dans l'émission de Mario Dumont. Il travaillait avec nous pendant une saison. C'est un gars qui est atteint du cancer, croyez-le ou non, depuis pratiquement un quart de siècle, qui combat un cancer. Il pensait que c'était parti. Et malheureusement, il est aujourd'hui là, dans ses derniers moments. On lui a parlé il y a quelques mois, à peine le 13 mars dernier. Et on lui a parlé justement de la récidive parce qu'il était ici, parce qu'il est porte-parole justement pour ramasser des fonds pour combattre le cancer, pour financer la recherche contre le cancer. On va écouter qu'est-ce qu'il avait à nous dire à ce moment-là au sujet de la récidive.
D'abord, je suis en récidive, moi, là, actuellement, depuis 3 ans. J'ai un cancer hormonorésistant avec des métastases. Mais j'ai été pendant... Et c'est pour ça qu'il faut pas trop prendre, faut prendre ça au sérieux, mais c'est pas dramatique. Là. Ça dépend de l'évaluation de son cancer. Okay. Les urologues ont une échelle qui s'appelle l'échelle de Gleason, qui est graduée en 10. 0 à 4, c'est pas agressif, et c'est peut-être l'occasion à ce moment-là juste de surveillance à peu près aux 3 mois, une prise de sang, un toucher rectal aux 3 mois, puis une surveillance active. Ensuite, de 4 à 7, c'est semi-agressif.
Okay.
Et de 7 à 10, alors c'est agressif et ça nécessite une intervention chirurgicale le plus rapidement possible pour faire l'ablation de la prostate.
Donc, il nous a parlé de ses problèmes à ce moment-là. Et l'entrevue, elle est très touchante. Là, ceux qui veulent aller le lire sur Internet, là, il raconte un paquet d'affaires. Et Jean Tremblay en profite aussi pour faire un peu le tour de la carrière de Jean Pagé, parce que c'est un gars qui, comme on disait, qui a touché à peu près à tout. Dans le domaine, c'est sûr que dans le domaine du sport, on s'en souvient. Tout le monde se souvient de quelque chose. On est des auditeurs qui nous écrivent les héros du samedi, c'est vrai. Il a touché vraiment à tout dans le domaine du sport, Dan.
Oui, puis au-delà d'être compétent, c'est un monsieur qui était très gentil.
Sympathique, oui.
Puis moi, je le note, parce qu'il y en a dans notre domaine qui sont pas gentils. Fait que quand les gens sont gentils, je le dis en nombre, qui sont gentils.
En dehors du micro, surtout, que tu veux dire.
Exact.
Hein, c'est
exact.
Ça.
Ce monsieur-là était compétent. Puis moi, quand j'étais ticu, là, puis je regardais la soirée du hockey, là. Puis, quand le match commençait, les lumières dans l'aréna étaient fermées. Lui, il était debout dans l'entrée de la Zamboni. Puis là, le projecteur était sur lui. Puis c'est lui qui nous souhaitait la bienvenue à la soirée du hockey. C'était pas... Là, après ça, il donnait la parole à, je sais pas, à René Lecavalier ou à Claude Canville. Ou il y en a plusieurs qui ont décrit les matchs du Canadien pour la soirée du hockey. Mais quand la soirée commençait, c'était Jean Pagé qui nous souhaitait la bienvenue à Pittsburgh, à Washington, partout, à Montréal, peu importe où le match était présenté. C'est lui qui était là dans l'aréna. Puis là, moi, je me disais, quand j'étais plus jeune, je me disais, hey, plus tard, j'aimerais ça faire ça, sa job.
Tu rêvais de prendre sa job un jour.
Mais hein?
Ça t'a inspiré, finalement.
Oui, mais je trouve que ça a changé. Je trouve qu'on n'a plus ça, le début d'une soirée de hockey avec le Jean Pagé ou le nouveau qui aurait remplacé Jean Pagé. Sur le bord de la patinoire, les lumières fermées dans l'aréna.
C'est moins spectaculaire.
Ouais, c'est ça.
C'est comme le choc des casques au football. Le Monday Night Football, là, j'écoutais, je voulais pas manquer le début. Si je commençais le Monday Night Football après 5 minutes, là, c'est comme si j'avais manqué à ce moment-là, j'étais enragé. Je voulais voir le choc des casques qui explosait au début. Écoute, c'était comme l'adrénaline qui monte, mais c'est la même chose au hockey. On voyait dans le noir, puis là, ils nous souhaitaient la bienvenue au match entre les Bruins puis le Canadien, puis là, ça partait à soirée.
Exact.
Si tu manquais ça, c'est comme si t'avais pogné, t'avais manqué une période. C'était quoi? Ça faisait partie du match.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'on garde des bons souvenirs. Puis t'as raison, Dan. À l'extérieur des ondes, ce gars-là, puis on en a côtoyé, toi et moi, puis tout le monde ici, là, du monde dans le milieu des médias au Québec, il était particulièrement sympathique. Oui. Pas juste pendant qu'il y a un micro devant lui ou une caméra. Et moi, la une
qualité de français impeccable.
Oui, oui, c'est sûr, c'est incroyable. Puis moi, une des dernières fois que je l'ai vu, c'était au 98.5 à Montréal, puis il m'annonçait justement qu'il voulait plus revenir, puis que là, okay, il avait décidé qu'il il renouvellerait pas un contrat, puis la station, il allait faire d'autres choses, puis il avait décidé que c'était terminé. Puis là, aujourd'hui, je me trouve tellement épais, là, j'avais remarqué qu'il avait beaucoup engraissé.
OK.
Et là, je m'étais dit, mais tu sais, j'en ai pas parlé, là, tu dis pas à quelqu'un, t'as pris 40 livres, t'as mangé mon cochon, tu dis pas ça qu'à personne, là. Mais là, je le regardais tout le long, puis au début, tellement qu'il avait engraissé, ça m'a pris comme une fraction de seconde à le reconnaître quand il m'a parlé, parce que j'étais arrivé face à face avec lui. Puis là, je dis, ah, c'est Jean Pagé, OK. Mais sur le coup, là, il avait tellement engraissé que physiquement, je ne l'ai pas reconnu instantanément. Et aujourd'hui, on apprend que c'était la médicamentation qui fait qu'il y a eu... Puis
j'ai parce que moi, je ne l'ai même pas reconnu sur la une.
Non, sur la une...
C'est pas
non.
Des farces, là. Je ne l'ai pas reconnu. Mm.
Tellement il a changé physiquement. Ouais, ouais. Mais là, il est amaigri, là.
Ah oui?
Comparativement à ce qu'il était. Moi, il était plus gros que ça quand je l'ai croisé. Là.
OK.
Il avait pris beaucoup, beaucoup de poids. Puis je pense que c'est à cause des médicaments qu'il prenait, là. C'était un effet secondaire. C'était pas. Puis là, il y a quelqu'un qui dit, vous en parlez, pareil, comme s'il était mort, là. Attends, je comprends ce que vous voulez dire, vous avez raison, puis c'est le but, c'est pas en tout de manquer de respect, au contraire,
mais non,
l'entrevue est comme ça un peu, là.
Oui.
Le titre, d'ailleurs, du journal, c'est J'ai eu une belle vie. Et le sous-titre, c'est « Il vit ses derniers mois ». Puis lui-même parle de ça, là. Et c'est vraiment... Il a choisi sereinement de se retirer là. Puis il dit même que... il faut dire médication, là. Oui. J'ai dit médicamentation tantôt. Il dit même, un moment donné, qu'il aurait pu être aux soins palliatifs, mais grâce à sa conjointe puis à l'entourage qu'il a, il a pu avoir tous les soins dans sa résidence dans les Laurentides, puis pas pouvoir rester chez eux jusqu'au dernier moment. Donc, c'est comme s'il était normalement aux soins palliatifs, mais il a la chance de pouvoir terminer ça parmi les siens, dans son environnement à lui. Comme je pense que tout le monde souhaiterait, là, les soins palliatifs, c'est très bien, là, mais si tu as la possibilité de faire ça chez vous, c'est sûr que... psychologiquement, ça doit être pas mal mieux pour le moral de tout le monde.
Tu sais, puis en même temps, il est pas mort, mais le fait d'avoir cet article-là aussi dans le journal, ça lui permet à lui d'avoir tous les commentaires de son vivant. Tu sais, des fois, la personne est morte, puis tout le monde lui rend hommage,
ouais.
Alors que là, ben on le sait là que ça achève, puis les gens sont probablement en mesure de lui envoyer tous les messages aujourd'hui, ceux qui sont proches ou même loin, puis il y a plein de façons de le faire aujourd'hui, de communiquer avec des gens qu'on voit moins souvent.
Fait que, garde, on lui souhaite le meilleur le meilleur, puis on lui souhaite la quiétude, puis ce que j'aime beaucoup, c'est son espèce de sérénité par rapport à ça, là.
Ouais. Puis c'est vrai que c'est le choix qu'il faut faire dans ce temps-là, d'avoir de la paix d'esprit, tu sais.
Ouais. Fait que, on va garder un excellent souvenir de ce gars-là. Et c'est sûr qu'on espère tous qu'il va survivre encore plusieurs mois, là.
Mais
ça fait 25 ans qu'il se bat contre le cancer. Ah, puis je pense qu'il a choisi aussi, ça se peut, là, tu sais, on rentre pas dans les détails dans l'article, là, mais après 25 ans de combat, ça se peut qu'un moment donné, t'en aies ton troc, là.
Garde.
Tu sais, je pense que... Puis tu sais, il pensait que le cancer est revenu. Puis c'est ça qui... Cette maudite maladie-là, c'est ça qui est épouvantable, hein? C'est quand tu penses que c'est parti, que ça revient, puis ça... T'as toujours une possibilité de récidive, puis une possibilité de récidive. Puis c'est ce qui fait que tu dois toujours te battre. C'est pas toujours évident. Et tandis qu'on est dans le monde du sport, ben aujourd'hui, c'est une grosse nouvelle aussi de sport, parce que ce soir, quoi qu'il advienne, peu importe qui va scorer, peu importe le nombre de buts, peu importe l'arbitrage, peu importe la foule en délire, il y a quelqu'un quelque part, mais en fait pas quelque part, à Boston, on le sait, qui va soulever la Coupe Stanley drette ce soir, Dan.
Oui, monsieur. Match numéro 7, la finale de la Coupe Stanley, on n'a pas vécu ça depuis 2011. Et en 2011, c'est les Bruins, justement, qui étaient allés gagner à Vancouver contre les Canucks de Vancouver, d'Alain Vigneault, l'entraîneur-chef, et de Roberto Luongo, le gardien. C'était Claude Julien, en ce moment-là, qui était entraîneur-chef des Bruins, et le gardien numéro 1 était Tim Thomas. Ce soir, c'est les Blues contre les Bruins, et... Comme amateur de hockey, on ne pouvait pas souhaiter mieux qu'un 7e match. Ça a été une excellente série finale avec deux équipes qui font pas partie de l'élite de la Ligue nationale, mais deux équipes qui sont pas très loin de l'élite de la Ligue nationale et deux équipes surtout qui ont très bien joué dans les deux derniers mois. Et c'est pour ça que on a souvent le débat à savoir comment on bâtit une équipe pour gagner la Coupe Stanley. Par les défenseurs, par le meilleur gardien de la Ligue, par de l'attaque, c'est-tu bon de marquer 7 buts puis essayer de gagner 7-6? Il n'y en a pas de recette miracle. Sinon, les 31 équipes essaieraient de copier cette recette-là puis les équipes seraient bâties à peu près toutes de la même façon. Mais il n'y en a pas de recette idéale. L'important, c'est de bien jouer pendant 2 mois. C'est pas d'avoir la meilleure équipe sur la feuille. Parce que la meilleure équipe sur la feuille cette année, il n'y a aucun doute, c'était le Lightning de Tampa Bay.
Oui.
Meilleur que tout le monde.
En saison régulière.
C'est ça. Donc, si on n'avait pas voulu présenter les séries éliminatoires, on aurait donné la coupe au Lightning. On aurait dit, c'est vous les meilleurs, bravo, tout le monde s'en va jouer au golf. Mais non, les séries éliminatoires, c'est 2 mois de hockey. Il faut que tu gagnes 4 séries, 4-7. Et la première équipe qui gagne 16 matchs, c'est elle qui gagne la coupe.
Ça finit là.
Ça a toujours été ça. Mm. Fait que, ben, toujours. Presque toujours. Ouais. Depuis très longtemps, c'est comme ça.
Ça a déjà été des 3-5, ouais, mais là, c'est des 4-7.
Depuis très longtemps, c'est comme ça. Donc, ce soir, c'est fascinant. Je peux pas te dire qu'il va gagner. Je peux te garantir une chose. Gary Bettman va être très sévèrement hué, hein, quand il va remettre la Coupe Stanley au capitaine
comme
de l'équipe gagnante.
Ça, c'est que toutes les villes,
chaque année,
toutes les ans.
C'est incroyable.
Il y a personne dans la ligue qui l'aime.
Exact.
Écoute, moi, j'étais allé à Vegas, ils ont annoncé une équipe. Il est venu leur annoncer qu'ils donnaient une équipe à la ville, puis le monde sont mal lués, pareil comme si c'était le dernier des bandits qui venait de débarquer. C'est pas. Ça m'a fait capoter.
Ouais, c'est comme à la lutte, là. M'a donné le méchant, c'est le fun de l'UE.
Mais c'est drôle, mais j'ai
12
l'impression.
12 millions par année.
Ouais, c'est ça.
Son salaire?
Ouais.
Fait que ça y dérange peut-être 000. Pas trop.
Ouais, il gagne plus que Crosby. Pas trop stressant de se faire huer.
Mais c'est Dan, penses-tu que s'il venait nous annoncer demain à Québec que les Nordiques sont de retour, qu'on se mettrait à l'UE?
Je me souviens pas à Winnipeg, il est arrivé quoi.
En tout cas, à Vegas, je peux te dire que ça huait. Mais ici, avec Québec, j'ai l'impression que le monde l'applaudirait. On serait tellement content que les Nordiques reviennent.
Ben, mais à Québec, il n'est pas très aimé.
Non.
Les gens pensent que c'est de sa faute si on n'a pas l'équipe.
Oui, mais s'ils nous annoncent une équipe, on va revirer de bord, bout pour bout, là.
Ben, ça pourrait venir avec un beau chou, pareil.
Oui, ouais, c'est
en tout cas, à soir, on le sait qu'il va en avoir des choux. Puis à soir, on le sait que la coupe va être soulevée. Puis garde, septième. Moi, j'adore ça que ça soit un 7e match.
Ben oui.
On souhaiterait ça à tous les ans.
Tu l'écoutes où?
Chez nous.
Oui.
Mais j'aurais vraiment. Ben oui, ça, c'est l'autre truc, hein. Il était une époque où on allait tous dans les bars sportifs pour écouter surtout des matchs comme ceux-là.
Ils sont contents, les bars sportifs. Ils ont les Raptors pour la Coupe Stanley.
Ouais. C'est sûr que cette année, pour eux autres, c'est une bonne année.
Pis c'est jamais le même soir.
Non. Mais en même temps, là, les bars sportifs, elles ne vont pas entendre ce que j'ai à dire, mais maintenant, on a des télés tellement de grande qualité que ça a changé. Moi, j'ai l'impression.
Ils s'en sont rendus compte, je dirais, dans leur chiffre de vente.
Dans mon salon, je vois mieux. Puis j'ai plus l'impression d'assister au match que si je suis dans un bar sportif. Puis c'est niaiseux, là, mais moi, j'aime l'ambiance du bar sportif, mais la qualité de l'image puis du son, veut pas, avec les nouvelles télés qu'on a, c'est 100 fois mieux chez nous. Mm-hmm. Fait que c'est... Qu'est-ce qu'on fait? On reste chez nous pour avoir une belle image ou on va dans un bar pour avoir de l'ambiance?
C'est
un ou l'autre.
C'est ça.
Tu peux voir les deux.
C'est ça. Préfères-tu l'ambiance ou bien une grosse TV?
Ou la belle image.
Oui.
Parce que...
Moi, j'aime l'ambiance dans un bar sportif. Je trouve ça vraiment le fun.
Ben oui, c'est sûr que c'est le fun. Mais en même temps, c'est le fun d'avoir la belle image aussi, non?
Ben, tu sais, que je sois en HD ou pas, là, m'a dit. Tu sais, quand il y a un gros écran, il y a un gros écran. C'est du sport, là. C'est, je regarde pas, j'écoute pas du Beethoven, je regarde pas de la
peinture. T'as l'impression que la POC est dans ton salon, là. C'est rendu comme ça, là. T'as l'impression quasiment que c'est en 3D, là. On est à la limite, là. Moi, je pense que ça fait une différence. Martin nous écrit, t'as exactement, Eric, 65 pouces assis dans mon divan, c'est le best. Y a quelqu'un d'autre qui me va dans le sens contraire. Il dit, moi, j'ai vécu cette semaine ma première expérience d'un match de basketball dans un bar. Ça a été malade.
Ben oui.
Je pense qu'il y a beaucoup de bars sportifs que c'est la première fois qu'ils ont découvert ou qu'ils avaient le basketball à TV.
Oui.
Parce que j'ai l'impression que ça jouait pas si souvent que ça dans les bars sportifs.
Il y a tel poste. Hein?
Ben,
on va l'essayer.
Dan, d'après moi, il n'y avait pas grand bar sportif qui faisait des spéciaux pour une game des Raptors là, à Québec. Là. D'après moi, c'est très, très récent qu'on puisse faire ça. Beaucoup de gens qui reviennent aussi sur ce qu'on a discuté tout à l'heure par rapport à Jean Pagé. Parce que puis il y a quelqu'un qui amène une réflexion. C'est sûr qu'on est quelques-uns ici à être des gens sans enfants. Et c'est sûr que ça te fait beaucoup réfléchir quand tu lis ça. Il dit, c'est bien beau, là, tu sais, de vouloir mourir chez vous, puis d'être entouré de ceux que t'aimes, puis pas être tout seul dans le fond d'un hôpital ou aux soins palliatifs. Mais il dit, ça prend du monde, ça te prend de tes proches, ça prend du monde qui sont capables de prendre soin de toi. Puis, veut pas, tu sais, aujourd'hui, on a des familles de moins en moins nombreuses. Il était une époque où c'était naturel, tu sais, t'avais 6-7 enfants, puis les parents, les enfants, les conjoints, les gens étaient, il n'y avait pas beaucoup de divorces non plus, les gens étaient beaucoup plus tricotés, serrés, fait que c'était comme naturel et normal. À une époque où on n'a plus d'enfants, où on divorce comme on change de chemise, où les enfants se foutent de leurs parents de plus en plus, est-ce que cette réalité-là n'est pas appelée à changer?
Non, mais ça va au-delà de ça, puis on l'a déjà eu cette discussion-là. Oui. C'est super mourir à la maison dans la mesure où, dans la vraie vie, tu serais pas supposé être en soins palliatifs, puis que tu crées le chaos autour de toi parce que tu veux pas y aller. C'est très différent. Si Jean Pagé est capable d'être là, puis que ses proches ont, effectivement, comme l'auditeur dit, la disponibilité, c'est effectivement le scénario idéal. Mais quand tu crées le chaos autour de toi, parce que toi, dans ta tête dure, c'est comme, moi, je vais rester à la maison jusqu'à temps que je sois capable, ben, c'est ça le bordel. On a parlé de ça, tu sais. C'est pas tout le monde qui est en situation.
Non, mais mon point, c'est pas ça. Mon point, c'est le fait que la famille a éclaté, puis qu'on n'a plus de proches. Et qu'on est de plus en plus seul au monde. C'est ça, mon point.
Demande à Gilles Kegel. La quantité de personnes qui s'occupent, lui, parce que je pense que c'est une question de ressources, tant humaines et matérielles, parce que, oui, tu peux avoir un proche qui va terminer ses jours à la maison, mais il faut que tu aies les capacités aussi d'en prendre soin, puis peut-être la possibilité, moi, je le sais pas, là, mais il faut que quelqu'un vienne offrir les soins à la maison aussi, là.
Ben oui.
Ça n'a pas nécessairement le même
coup.
C'est pas
ton gars là, qui commence à t'injecter. Là.
Ouais. Non.
Puis il faut que tu donnes son bain. Puis ça va dans des gestes très intimes là, de prendre soin d'un proche à la maison.
T'as raison, mais c'est ça. Tu sais que par exemple, prendre ton bain puis tout ça. Moi, je sais. T'sais, mon chum m'en a parlé. Là, ça a été un moment pour lui là. Il avait jamais eu cette proximité là avec son père. Tu sais, il y a des gens puis des enfants puis des pères puis des parents puis des enfants que physiquement. C'est niaiseux, ça, là, mais tu sais, moi, j'étais habitué de voir mes parents nus, mettons, là, OK? Puis je sais qu'il y a des parents qui sont très pudiques, puis que les enfants les ont pratiquement jamais vus nus. Mm. Et là, ils arrivent à cette période-là de leur vie, puis l'enfant, il faut qu'il te change ou il faut qu'il te fasse prendre ton bain. Puis les premières fois, il y a comme une. Comment je te dirais ça? Il y avait une inhibition, là. Il y avait comme quelque chose qu'il fallait régler, mais. Avec le recul, mon chum aujourd'hui il me dit qu'il est super content d'avoir vécu ça avec son père, là, parce que ça lui a donné une proximité qu'il n'avait jamais eue. Et puis, tu sais, il a réussi à être là jusqu'à la fin. Puis ça l'a aidé dans son deuil, puis ça l'a rapproché de son père avant la fin. Fait que, tu sais, il y a des côtés positifs là-dedans, là. Mais encore, faut-il que tu aies des gens proches comme ça de toi. Mm. Et on en a de moins en moins. C'est ça mon point. Puis ça va pas aller en changeant, là. Au contraire, on est de plus en plus individualiste, on a de moins en moins de liens significants. C'est pas vos amis Facebook qui vont venir s'occuper de vous autres, là, je vous avertis tout de suite. Là.
De plus en plus occupés aussi.
C'est
hein?
ça. C'est pas, il suffit pas de liker une photo sur Insta. Là. Non, mais on est là. T'sais, on a des relations. On pense qu'on a bien du monde parce qu'on est des amis sur Facebook. C'est pas de même, ça marche. Là. C'est pas eux autres qui vont être aidés. Là.
Mais regarde même une fratrie de 4 enfants, mettons. Là. Le père, il est malade, puis tout ça. Qui des 4 va vraiment se déplacer, puis va vraiment aller soit à l'hôpital à tous les jours, ou il faut que tu sois en ville, puis il faut que tu
dans
sois.
Dans la même ville.
Dans la même ville, puis en plus. Je veux dire, la vie va vite. On est beaucoup plus occupé, je pense, qu'avant.
Puis quand t'en as 7 enfants, c'est une chose. Quand tu n'as rien qu'un, c'est une autre affaire.
Ben, c'est ça, c'est une autre réalité.
Fait que le, tu sais, tout ça, ça, c'est tout en train de changer. Mmh. Fait que moi, j'ai l'impression qu'on va être. Tu sais, on parle de Jean Pagé, mais on pourrait parler de n'importe qui d'autre. Là. Il va en avoir de moins en moins de gens qui vont être entourés. Puis ça, je trouve, c'est une des choses les plus tristes de la vie, c'est de finir seul. Tu sais, être seul au monde, là, c'est pas. Moi, je suis un enfant unique en plus. Il y a beaucoup de gens, puis on est de plus en plus nombreux à être des enfants uniques. Il y a ça aussi. Fait que, tu sais, t'es enfant unique, t'as pas d'enfant. C'est sûr que tu te dis, tu sais, qu'est-ce qui va arriver? Qui va être là?
Mais en même temps, il y a des parents qui veulent pas non plus que ça incombe à leurs enfants de prendre soin d'eux jusqu'à la fin. Non, mais il y a des choix.
Quand t'es en phase
terminale,
là, je pense que tes enfants, là, ils s'en foutent de ce que tu penses là-dessus. Là. Tu sais, tu veux être avec ton parent pour les derniers moments quand tu sais qu'il reste très peu de temps, là.
Ben, dans le fond, c'est par rapport à l'exigence là, que des gens pourraient avoir de rester à la maison. T'sais. Peut-être qu'il n'y en a pas tant que ça là, qui vont se borner s'ils savent très bien que les ressources, même s'ils les ont, les gens n'ont pas... je sais pas. Moi, je sais pas si à quel point je voudrais que mon fils se mette tout ça sur les épaules. C'est ça que je veux dire.
Ouais,
d'un sens comme dans l'autre.
Puis aujourd'hui, les deux travaillent. T'sais. Ça fait qu'avant, ça devait incomber aux femmes, comme un peu naturellement, d'avoir le temps pour faire telle affaire. Ça fait que là, ça, on est dans une autre société complètement. Ça fait qu'effectivement, il faut pas que tu t'attendes à ce que vieillir et mourir, c'est le même package deal, si je peux dire, que c'était il y a 25 ans et plus. C'est sûr que non.
Il parle de sa conjointe, Jean Pagé, qui justement a tout mis ses activités professionnelles de côté parce qu'elle s'est consacrée à lui. C'est très touchant de voir. Puis il parle de l'amour. Puis il l'aborde lui-même, là, fait que c'est pas comme je brise pas un secret, là, mais il parle de la différence entre la sexualité et l'amour, parce que vous comprenez qu'un cancer de la prostate, ça a un des impacts, c'est que justement, t'as plus d'érection, t'as plus de vie sexuelle active.
Dans certains cas,
là.
Ouais.
C'est son cas. Il parle des dernières années où c'est zéro open bar. Et je dirais pas zéro comme dans Boileau dans ce cas-là, parce que là, ça pourrait porter à confusion.
Exactement. Faut garder ça vrai. Faut garder ça vrai.
Mais sérieusement, je veux dire que il raconte comment c'est l'amour, puis comment ça n'a rien à voir avec l'aspect juste physique. Puis ça, je trouve ça très beau aussi. Parce qu'on l'oublie souvent. T'sais, aujourd'hui, on associe souvent à l'amour. On pense que sans sexualité, l'amour est impossible. Puis on a l'impression que l'amour, c'est comme en périphérie de la sexualité. Quand la sexualité est bonne, l'amour va venir. Alors que c'est peut-être pas tout à fait ça, là. L'amour véritable n'a rien à voir avec la sexualité active, là. C'était ça aussi, j'ai trouvé que c'était un message. Il y a très peu de gens qui en parlent. C'est un sujet hyper tabou dans notre société. De parler du fait que tu n'as plus de vie sexuelle, que tu as une incapacité physique à avoir des relations complètes. Et que.
Mais c'est pas obligé juste d'une incapacité physique.
Non, non, ça peut être d'autres raisons.
Ça peut être que t'es rendu là.
Mais dans son cas, c'est ça, là.
Ouais.
Et que l'amour a quand même été en croissant avec sa conjointe, puis comment il voit l'amour dans ses yeux malgré le fait qu'il y a sur d'autres aspects, il se passe plus rien. C'est vraiment, vraiment touchant, son témoignage. Il y a beaucoup de réactions, évidemment. Il y a Pierre qui nous rappelle que la solitude, c'est le problème majeur chez les personnes âgées. Je vous l'ai déjà dit, la solitude est la cause numéro un de la mort. On pense toujours que c'est le cancer. Le cancer, c'est numéro deux. Le numéro un, là, parlant à n'importe quel médecin qui a beaucoup de patients âgés, là, il va vous le dire, là, le premier problème, c'est la solitude. Ma mère a gardé mon père jusqu'à la fin, nous écrit une auditrice. C'est elle qui prodiguait tous les soins, piqûres incluses. Elle le referait, donc pour elle, ça a été une expérience concluante. Oui, parce que maintenant, de plus en plus, ils vont même donner des formations aux proches pour pouvoir administrer justement certaines piqûres, certains remèdes, certaines affaires. Donc, ils ont un encadrement puis un soutien. Vous allez me dire que c'est pour que le gouvernement se dégage. Puis pendant ce temps-là, ça coûte beaucoup moins cher. C'est sûr que ce monde-là, qui mettent leur carrière de côté... là.
Ben en même temps aussi,
tout
c'est
le monde
pour
fait
éviter
une économie, là.
Des visites à l'hôpital. Tu sais, quand tu fais le pas, là, juste d'être obligé à l'hôpital, pour recevoir un traitement, si tu peux l'avoir à la maison, c'est encore mieux.
C'est mieux pour tout le monde. Enfin, on va prendre une courte pause. Restez là, on revient dans quelques minutes.
Le retour d'Éric Duhaime. On prend une petite pause.